Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous, nous sommes à Nantes à l'occasion de la 5e édition des Géopolitiques de Nantes, une initiative de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Israël-Palestine, la paix est-elle encore possible? La question se pose alors que cette année 2017 marque le 50e anniversaire de la guerre des Six Jours. Une offensive éclair contre les armées arabes qui a permis à Israël de prendre une partie de la péninsule du Sinaï et la bande de Gaza à l'Égypte, le plateau du Golan à la Syrie, la Cisjordanie et Jérusalem-Est à la Jordanie. Des conquêtes militaires qui ont profondément changé la donne dans la région avec la poursuite par les gouvernements successifs d'une politique d'implantation de civils juifs israéliens et de confiscation des terres. Signés en 1993, les accords d'Oslo n'ont pas permis une paix durable. 24 ans après, le conflit israélo-palestinien n'en finit pas. La situation se dégrade jour après jour et les parties semblent incapables de trouver les voies menant à la paix. La communauté internationale est impuissante, impuissance à laquelle s'ajoutent les incertitudes quant à la politique du président américain. Vers quoi va-t-on en 2017? Faut-il craindre une nouvelle explosion des violences? Quels sont les scénarios possibles? Pour y répondre, nos invités, Marianne Meunier, chef de rubrique Proche-Orient au service Monde de la Croix, bonjour.
Bonjour.
Samy Cohen, directeur de recherche émérite aux séries Sciences Po, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Israël et ses colombes, enquête sur le camp de la paix chez Gallimard, bonjour.
Bonjour.
Alain Diekhoff, directeur de recherche au CNRS, directeur du séries Sciences Po, spécialiste du Moyen-Orient et notamment du conflit israélo-arabe, auteur de plusieurs ouvrages. Le dernier, le conflit israélo-palestinien, chez Armand Collin. Bonjour.
Bonjour.
Et Dominique Vidal, historien, journaliste, directeur avec Bertrand Badi de la publication annuelle L'État du Monde aux éditions La Découverte. Bonjour.
Bonjour.
Alors où en est-on en 2017? Benjamin Netanyahou a-t-il laissé passer une occasion rare d'un plan de paix en 2016 à l'occasion d'une rencontre secrète avec le roi Abdallah de Jordanie et John Kerry et le président égyptien? Kerry avait mis sur la table un plan en 6 points vers une solution négociée dans un cadre régional qui devait entraîner une reconnaissance d'Israël comme État juif par les pays arabes, exigence de longue date de Benjamin Netanyahou. Ces informations émanent d'un journal américain. Benjamin Netanyahou a-t-il vraiment raté une occasion ou son attitude témoigne bien de la vision qu'il a de la question israélo-palestinienne, Samy Cohen?
Écoutez, la réponse dépend de quel côté on se situe. Si on est partisan de la paix, de la reprise des négociations de paix, oui, une occasion a été ratée. Mais si on se positionne du point de vue du chercheur, qu'est-ce que voulait Netanyahu? Avant tout, ne pas perdre l'emprise sur sa coalition. Il savait très bien que les forces sur lesquelles il pouvait s'appuyer, des forces alternatives, ne lui suffisaient pas pour se maintenir au pouvoir. Et donc, il a très bien vu que sa survie politique dépend de sa coalition, qui est beaucoup plus à droite que lui, faut le savoir. Et donc, le prix à payer ne valait pas la chandelle. Benjamin Netanyahu, en fait, est un homme politique, un premier ministre, qui n'a pas vraiment de grande politique. Il n'en a jamais eu. Sa grande politique consiste à demeurer au pouvoir. Et là, donc de ce côté, on peut répondre à la fois de manière négative et positive.
Vous partagez, Dominique Vidal, Alain
Diekhoff? Oui, je crois qu'il n'y a pas chez Benjamin Netanyahou la moindre envie de régler la question israélo-palestinienne par un traité de paix durable. On le voit d'ailleurs très bien, on est dans une espèce d'impasse. On parle de statu quo, on a tort, parce que la colonisation, elle avance pendant que la négociation est en panne. Une impasse dans laquelle les affaires de la direction israélienne fleurissent, très bien. Les pays arabes sont en pleine alliance avec Israël contre l'Iran. Le président américain est extrêmement bienveillant à l'égard d'Israël. La division Hamas-Fatah, soigneusement entretenue, mais elle n'a pas besoin de l'être, ils savent le faire eux-mêmes, permet de paralyser tout à fait la direction palestinienne. Bref, tout se passe très bien, d'autant qu'il y a l'Irak et la Syrie qui marginalisent, au plan international, les efforts des Palestiniens pour rebondir à l'ONU, comme ils l'ont fait à Interpol, par exemple. Enfin, Interpol n'est pas un changement radical de la situation internationale.
Alain Diakhoff, impasse, c'est avec ce terme aussi que vous résumeriez la situation aujourd'hui entre Israéliens et Palestiniens ?
Oui, ça, je crois que c'est assez clair. Pour moi, le tournant, en fait, il est assez ancien. Il y a eu les tentatives, évidemment, récentes de John Kerry, 2013-2014 en particulier, au cours desquels il a donné beaucoup de sa personne pour essayer de relancer quelque chose. Je pense que d'ailleurs c'était celui qui était le plus investi dans l'affaire, plus que les Palestiniens et plus que les Israéliens, très clairement. Il y a eu un peu plus tôt, à l'époque de Ehud Olmert, 2007-2008 aussi, une tentative la plus bilatérale entre Olmert et Mahmoud Abbas. Mais en réalité, pour moi, le tournant, c'est vraiment la seconde intifada, c'est-à-dire 2000-2005. C'est ça qui a complètement changé la donne. C'est-à-dire que il y avait un processus de paix qui allait vaille que vaille, évidemment, entre 1993 et 2000. Hein, il a connu des hauts et des bas. Faut pas oublier que c'est aussi une époque qui a été où il y a eu beaucoup de terrorisme. Le Hamas d'un côté, qu'Israël a beaucoup utilisé aussi l'armée, ou en tous les cas à certains moments, pour essayer de réduire l'opposition des Palestiniens en Cisjordanie. Mais il y avait quand même une dynamique. Voilà, il y avait quand même une dynamique. Tout ça a complètement disparu progressivement entre 2000 et 2005 pour des raisons très très claires, c'est-à-dire que on a eu une confrontation où la violence est allée crescendo, avec d'un côté des attentats contre des civils au cœur même des villes israéliennes, Jérusalem, Haïfa, Tel Aviv, de l'autre côté évidemment le Israël a tenté d'endiguer cela en utilisant la force armée de façon de plus en plus massive, allant jusqu'à une réoccupation des villes en Cisjordanie à l'époque où Ariel Sharon était Premier ministre. Et tout ça a rompu, pour moi, la confiance minimale entre les partenaires, aussi bien entre les dirigeants que entre les sociétés, en réalité. Et cela n'a jamais pu être construit depuis, en réalité. Donc on est vraiment dans une impasse prolongée, qui, à mon avis, malheureusement, est appelée à durer. Et je voudrais aussi dire une petite chose qui me paraît importante. C'est que les Israéliens et les Palestiniens, tous milieux confondus, se connaissent beaucoup moins aujourd'hui que dans les années 70 et 80. Ils ont beaucoup moins de contacts, parce que les Palestiniens ne travaillent plus, en tous les cas, plus autant qu'ils ne le faisaient en Israël, parce que les Israéliens ne vont plus en Cisjordanie depuis longtemps, beaucoup ne vont même pas à Jérusalem-Est, parce que tout simplement, ils ont peur. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment fait que nous avons deux sociétés qui se tournent un peu le dos, en réalité, qui se tournent un peu le dos. Et là-dedans, je dirais, toute l'agitation diplomatique qui peut exister, y compris à l'extérieur, à mon sens, finalement, elle est un peu vaine.
Alors, peur du côté israélien, c'est ce que vient de dire Alain Diakhoff. Maria Meunier, qu'est-ce que l'on peut dire de l'état d'esprit des Palestiniens aujourd'hui ?
Ben, en tout cas, pour ce qui concerne la solution à deux États, il y a de plus en plus de Palestiniens qui n'y croient plus, constatant que la multiplication des colonies la rend impossible. Aussi des Palestiniens qui sont très sceptiques face à l'initiative que semble vouloir prendre, ou en tout cas que dit vouloir prendre l'administration Trump et même Donald Trump pour relancer le processus de paix, puisque il n'apparaît pas vraiment comme cet arbitre neutre qui serait pourtant nécessaire pour faire asseoir Palestiniens et Israéliens autour d'une même table, puisque dès la campagne, et ça s'est confirmé par la suite, il a donné beaucoup de gages aux Israéliens. Le gage le plus symbolique, le plus représentatif, c'est son annonce de transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui reviendrait à reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État hébreu.
Mais pour l'instant, cette question d'ambassade, elle est tombée à l'eau d'une certaine manière, ou en tout cas, il n'est pas allé plus loin. Côté américain, ce qu'on peut remarquer, c'est que Tillerson, le secrétaire d'État, a été déchargé du dossier israélo-palestinien au bénéfice du gendre de Donald Trump, Jared Kushner. Est-ce qu'on peut, sans savoir ce qu'il a à l'esprit, mais l'orientation de Jared Kushner, est-ce qu'on en a quelques éléments ?
Il ne connaît rien au dossier. Il ne connaît rien au dossier. Il se trouve simplement que c'est un juif américain et qu'il fait partie de la famille de Trump, mais sinon il n'a pas de connaissance particulière de ce dossier et donc je doute fort de ses capacités à parvenir à véritablement faire avancer les choses. Il y a d'ailleurs une autre personne qui est aussi un homme d'affaires qui est de façon plus large sur les négociations du processus de paix, mais qui à mon avis n'aura pas beaucoup d'input non plus. Non, je dirais que ce qui est frappant avec Trump, c'est que fondamentalement, je crois qu'il n'a pas de politique. Il n'a pas de politique sur le Proche-Orient. Je dirais même la désinvolture avec laquelle il avait répondu il y a quelque temps à un journaliste qui lui demandait « Mais qu'est-ce que vous avez comme solution ?» En gros, il a répondu, mais de façon en effet extrêmement désinvolte, « Finalement, un État, deux États, c'est un peu ce que les partis voudront. » Ce qui est vraiment incroyable de la part d'un dirigeant politique qui dirige la première puissance du monde. Donc après, il a fait du rétropédalage, mais ça montre quand même la méconnaissance abyssale qu'il a du dossier.
Ce qui est très curieux, Dominique Vidal. Donald Trump dit avoir un projet de deal, et il le dit, et le redit, et le re-redit, mais on n'en sait pas plus, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune proposition d'avancer. Par contre, c'est ça qui est frappant, sur la stratégie régionale, là on a entendu Trump, on l'a entendu à Riyad, et il a mis en fait en œuvre les conditions d'une alliance entre le monde arabe sunnite et Israël contre l'Iran. Et ça, c'est une chose qui s'est mise en route pour de vrai. Y compris, d'une certaine manière, il a sans doute donné le feu vert, clairement, ou de manière plus confuse, à l'opération menée par les Saoudiens et les Émiratis contre le Qatar. Donc on sent bien chez Trump que les priorités ne sont pas du côté de la Palestine et d'Israël, mais plutôt du côté de l'ensemble de la stratégie d'alliance contre l'Iran dans le Golfe.
Donc définitivement, Sami Cohen, on ne peut pas compter sur les États-Unis pour pousser le Premier ministre israélien à changer sa politique.
Non, on ne sait pas. C'est vraiment beaucoup trop tôt pour savoir vers quoi Trump va s'orienter. C'est un personnage éminemment imprévisible. Il est capable de tout. Il est capable de laisser tomber comme il est capable, au fond, d'essayer d'imposer des choses. Je voudrais dire une chose, c'est que l'imprévisibilité de Trump, elle se voit d'emblée. Il avait laissé entendre qu'il y aurait un transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Elle n'a pas eu lieu. Pour l'instant, je ne suis pas sûr que la droite, que le Likoud et que l'extrême droite soient très enthousiastes de la politique de Trump. Premièrement, il y a l'affaire de l'ambassade qui n'a pas eu lieu. Il a tout gelé. Deuxièmement, la question des colonies. Il a dit à Netanyahu, allez-y, mollo pour l'instant. Netanyahu, fais attention parce que c'est un partenaire qui doit lui être utile pour plusieurs objectifs, notamment en ce qui concerne la remise en question de la conférence concernant la menace nucléaire iranienne. Donc, pour l'instant, moi, je ne le vois pas comme quelqu'un de vraiment bienveillant, sauf vraiment en parole. Je voudrais revenir sur un point qui concerne la solution à deux États, qui a été évoquée. Bon, c'est vrai que les Palestiniens n'y croient plus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne le veulent pas. Ce sont deux choses différentes. Mais chez les Israéliens, on a le même problème. Les Israéliens la veulent, mais ils n'y croient pas. Et ils n'ont pas confiance. Et donc, on est entre deux. Ce qu'il manque le plus, c'est une volonté politique des dirigeants qui sont capables de dire, écoutez, voilà, je suis capable de vous proposer une vision à long terme qui inclut la fin du conflit entre Israéliens et Palestiniens et qui assurerait la sécurité d'Israël. Pour l'instant, il n'y a pas un seul dirigeant récent, depuis en tous les cas Rabin, qui a émergé pour rassurer l'opinion publique et la conduire dans ce sens-là.
Alors, puisque vous parlez de Yitzhak Rabin, Sami Cohen, j'ai envie de vous poser la question de savoir le camp de la paix aujourd'hui en Israël, il en est où ? Est-ce qu'il existe encore ?
Oui. Je suis désolé, mais il en existe. J'ai passé 5 ans à travailler sur le camp de la paix pour faire ce livre. Et je l'ai rencontré, figurez-vous. Je l'ai rencontré, mais ce n'est plus le même camp de la paix des années 70, début 80, quand les Israéliens descendaient en masse pour soutenir la paix avec l'Égypte, pour s'opposer à la guerre du Liban, pour manifester contre les massacres de Sabra et Shatila. Ce n'est pas le même camp de la paix. Aujourd'hui, on a un camp de la paix qui est fait de petites associations qui s'intéressent principalement à la question israélo-palestinienne. Ils sont tous mobilisés sur la solution à deux États. Certains le disent clairement, d'autres le disent de manière différente. Certains travaillent sur les droits de l'homme, d'autres travaillent sur des projets politiques, d'autres sur des projets plus particuliers, bien concrets. Et au fond, toute cette masse, on compte aujourd'hui 150 associations. Certaines font quelques dizaines de personnes, d'autres peuvent mobiliser jusqu'à 20 000 à 30 000 personnes pour une manifestation. Je prends les femmes qui œuvrent pour la paix. Ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement de la paix d'aujourd'hui, qui est moins visible, qui frappe moins les esprits, il est tout entier mobilisé sur la question palestinienne, alors que les protestations des années 70-80, les gens ne descendaient pas dans la rue pour la question palestinienne. La question palestinienne n'intéressait pas même la paix maintenant. C'était un sujet beaucoup trop délicat. Aujourd'hui, quand même, il y a un courant d'opinion, certes minoritaire, mais il existe. Et c'est le camp de la paix d'aujourd'hui, qui n'est pas le camp de la paix d'hier.
Alors, Alain Dikoff et Marianne Meunier après. Alain Dikoff.
Je pense que la grande différence, et ça c'est quand même évidemment un problème à long terme, il est fondamentalement politique, parce que c'est vrai que ce camp de la paix existe, qui s'est transformé, qui maintenant passe plus par des petites associations qui luttent par exemple contre la démolition des maisons, pour la défense des droits de l'homme, etc. etc. Mais le problème majeur pour moi, c'est qu'il n'y a pas de relais politique. C'est ça le fond du problème. C'est-à-dire, vous pouvez mobiliser autant que vous voulez, ou même de façon plus limitée, mais si vous n'avez pas de relais politique, tout ça va tourner à vide. Et le grand problème, c'est quand même celui-là, c'est-à-dire que la droite et l'extrême droite occupent quasiment tout le spectre politique en Israël aujourd'hui, parce que la gauche est complètement anémiée. Elle s'est dotée au cours de l'été dernier d'un nouveau dirigeant, c'est le 7e ou le 8e depuis 2001, ce qui est déjà mauvais signe. Chaque fois on essaye un autre, on avait d'anciens généraux qui ont été dirigeants du parti, on a eu un syndicaliste, on a eu un juriste, on a eu même une journaliste. Maintenant on a une sorte de, ce que certains appellent parfois une sorte un Macron.
Même une journaliste, Alain.
Non mais même une journaliste, oui, enfin bref. On l'a tout essayé quasiment, et maintenant on a trouvé un entrepreneur qui était le PDG de Bezeq, qui est la compagnie de télécommunications israélienne, que certains présentent un peu comme le Macron israélien venant du business et ayant peut-être la solution. Peut-être qu'il réussira quelque chose, je veux lui laisser le crédit, mais ça montre, c'est quand même une réalité, c'est que la gauche depuis, là encore une fois on voit bien que l'année 2000, ça a été une époque tournante, est incapable de se reconstruire. Elle est incapable de se doter de dirigeants qui sont là pour longtemps, elle est incapable d'avoir un programme crédible, elle est incapable de gagner tout simplement, c'est-à-dire qu'elle n'a plus été au pouvoir seule depuis 2001. C'est ça, la réalité.
Et le pouvoir, elle ne le retrouvera probablement jamais, ou en tout cas pas à court terme.
Jamais. Il faut jamais dire jamais en politique, mais en tous les cas, là, l'avenir est extrêmement sombre. Et justement, il n'y a plus cette presque symbiose qui existait entre la paix maintenant et le parti travailliste qui a existé jusqu'à cette époque-là, justement.
Marianne Meunier.
Oui, je suis d'accord avec Sammy Cohen lorsqu'il dit que ce n'est pas parce que les Palestiniens ne croient pas à la solution à deux États qu'ils ne la veulent pas. Je pense qu'il y a un grand désenchantement de la société palestinienne auprès de laquelle la classe politique a acquis un très grand discrédit. D'ailleurs, ils sont un grand nombre à souhaiter la démission de Mahmoud Abbas, président depuis 12 ans.
Qui a 82 ans.
Et qui a 82 ans. Et du côté du Hamas, il n'a pas tenu ses promesses. Le Hamas, donc, inspiré des frères musulmans, qui avait une dimension fortement sociale, n'a pas tenu ses promesses dans la bande de Gaza. C'est-à-dire que les conditions de vie des Gazaouis se sont, déjà qu'elles n'étaient pas fameuses, se sont considérablement dégradées. Le Hamas n'est pas le seul responsable, c'est aussi le blocus, mais en tout cas, il n'a pas rempli la mission qu'il s'était donnée.
Dominique Vidal, mais alors très rapidement, et je vous promets que je vous redonnerai la parole pour démarrer la deuxième partie de l'émission.
Non, c'était juste pour dire que, évidemment, on s'entend bien, si une société n'est pas homogène, c'est bien la société israélienne. Elle est extrêmement complexe, déchirée, avec des groupes. Mais on ne peut pas, sous couvert de l'existence, ou de la survie, ou de la transformation d'un mouvement de la paix, qui est une réalité, que Samy a d'ailleurs très bien décrite dans son livre, on ne peut pas mettre de côté l'écrasante hégémonie aujourd'hui de la droite et de l'extrême droite, qui fait qu'il y a, à mon avis, un changement qualitatif. C'est-à-dire, ce que a dit Alain Diakov est tout à fait juste sur la seconde intifada comme moment tournant, moment de bascule. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est dans un autre moment de bascule où on passe, pour aller vite, de la colonisation à l'annexion.
Alors, on évoquera tout cela dans la deuxième partie de l'émission. Nous retrouvons nos invités Dominique Vidal, Alain Diakov, Marianne Meunier et Sami Cohen dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique depuis les géopolitiques de Nantes à l'initiative de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Regard sur la question israélo-palestinienne, la paix est-elle encore possible? Nous retrouvons nos invités, Marianne Meunier, chef de rubrique Proche-Orient au service Monde de la Croix, Sami Cohen, directeur de recherche émérite au CERI Sciences Po, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier, Israël et ses colombes, enquête sur le camp de la paix, paru chez Gallimard, Alain Diakov, directeur de recherche au CNRS, directeur du CERI Sciences Po, spécialiste du Moyen-Orient et notamment du conflit israélo-arabe, auteur de plusieurs ouvrages, le dernier, Le conflit israélo-palestinien, chez Armand Collin, et Dominique Vidal, historien et journaliste, directeur avec Bertrand Badi de la publication annuelle L'État du Monde aux éditions La Découverte. Nous avons terminé la première partie de l'émission sur la question du camp de la paix et la difficulté qu'il avait, ce camp de la paix, à se faire entendre et obtenir des choses concrètes. Et Dominique Vidal, vous parliez de l'hégémonie de la droite aujourd'hui dans la société israélienne. Comment est-ce que finalement on peut expliquer la droitisation de la société israélienne ?
Il y a d'abord, je crois, une radicalisation de la direction israélienne. La droite et l'extrême droite israélienne sont en train, je ne dis pas que c'est fait, mais sont en train de passer d'un processus que nous connaissons de colonisation. Haaretz parle de 700 000 colons entre la Cisjordanie et Jérusalem-Est, à un processus d'annexion. Il ne s'agit pas seulement de discours, il s'agit d'une loi qui a été votée le 6 février 2017 et qui, à terme, permet l'annexion de l'ensemble de la Cisjordanie. Pour l'instant, cette loi est gelée par la Cour suprême. Mais enfin, si elle était mise en œuvre, ça voudrait dire la fin des deux États au profit d'une solution à un seul État, mais pas un État où juifs et arabes auraient les mêmes droits. Un État où les Palestiniens seraient privés des droits politiques et notamment du droit de vote. Autrement dit, une forme d'apartheid. Et ça, il faut bien mesurer que si ces choses continuent à avancer au rythme où elles avancent depuis les élections de 2015, on a un changement qualitatif. Alain Diakov avait parlé tout à l'heure de la seconde intifada. Je veux redire qu'aujourd'hui, on est dans une autre étape de ce type, un moment de bascule, où on en finit avec toute une page de l'histoire d'Israël, de la Palestine et du conflit. Donc on ne peut pas sous-estimer l'influence de cette radicalisation sur le processus de paix et son impasse.
Alors, cette annexion et cette radicalisation que vous évoquez, Dominique Vidal, elle se fait sous Benjamin Netanyahou, qui ne sera pas éternel. La question se pose, c'est qu'est-ce qui peut se passer, d'une part, après Benjamin Netanyahou, après Mahmoud Abbas aussi, côté palestinien. Est-ce que les choses peuvent évoluer de manière moins défavorable, Sami Cohen?
Écoutez, là on entre vraiment dans une perspective où rien ne paraît très clair et rien ne paraît très positif. Parce que du côté israélien, à la limite, je connais certains amis de gauche en Israël qui se disent il vaut mieux encore avoir Netanyahou qu'avoir quelqu'un qui viendra après lui, qui sera beaucoup plus à droite. Du côté palestinien, je ne connais pas très bien la société palestinienne, donc je laisserai les autres intervenants. Je voudrais revenir sur un point, sur la question de la droitisation de la société israélienne. Je crois que le problème est un tout petit peu complexe. Parce que lorsqu'on parle de droitisation, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle d'une droitisation électorale? Est-ce que massivement, les Israéliens se mettent à voter pour des partis de droite? Non. Je dirais que le rapport de force, globalement, parti de gauche, parti de droite, n'a pas changé depuis 2009. À un ou deux députés près, c'est quasiment la même chose, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on demande aux gens de s'identifier sur une échelle gauche-droite, est-ce que vous vous sentez plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt du centre? Vous avez un peu plus de 30% qui se dit à droite, vous avez entre 10-12% d'Israéliens qui se disent de gauche, et vous avez un gros marais de gens, d'Israéliens qui se disent centristes, qui refusent de choisir. Donc là, je dirais quand même, il y a malgré tout une certaine lueur d'espoir qui demande à être animée. Enfin, le dernier point, la droitisation, elle est vraiment à l'œuvre au niveau idéologique. Là, on sent très bien que la droite a gagné dans la conquête des esprits sur une chose bien précise qu'on n'a pas abordée jusqu'à maintenant, qu'on n'aborde pas beaucoup. Parce qu'on dit, il y a certes eu l'intifada qui a été certainement un moment important, mais il y a eu un phénomène un tout petit peu complexe. Il y a eu des retraits. Vous avez eu le retrait en 95 lorsque Rabin a concédé une partie du territoire à Yasser Arafat. Vous avez eu ensuite, en 2000, le retrait du Liban. Vous avez eu le désengagement d'Israël de la bande de Gaza. Ça fait trois retraits. Alors la droite dit, mais c'est très bien. Vous, la gauche, vous dites constamment, votre idée phare, c'est que le retrait va apporter la paix. On n'a jamais eu la paix. Dans les territoires occupés, on a eu l'intifada. Au Liban, on a eu la guerre du Liban. À Gaza, on a eu les Qassam. Donc, vous nous mentez. Et là-dessus, la droite a gagné de manière écrasante sur ce récit. Je pense qu'ils ont tort. Pour deux raisons. La première, c'est qu'aucun de ces retraits n'était un retrait destiné à apporter la paix. C'était tous des retraits à caractère soit tactique, soit stratégique. Même Sharon, il n'y avait pas d'ambition de paix derrière. Et donc, la paix, en fait, n'a jamais été testée. Deuxièmement, lorsqu'on voit la question du désengagement en 2005, entre 2005 et jusqu'à plan durci, il y a plutôt une situation d'accalmie relative par rapport à la période antérieure à 2005, où il y avait beaucoup de morts juifs et israéliens dans la bande de Gaza.
Alors, on va revenir sur la question de l'après Abbas avec vous, Maria Meunier. Ensuite, je voudrais qu'on rebondisse peut-être sur ce qu'évoquait à l'instant Sami Cohen. La paix n'a jamais été testée. Est-ce que ça veut dire que la société israélienne n'est pas prête pour la paix ? Maria Meunier.
Oui, alors vous disiez à juste titre que Mahmoud Abbas n'était pas éternel et rappeliez qu'il avait 82 ans. Alors, effectivement, dans la société palestinienne, c'est difficile de connaître véritablement les tendances de la société palestinienne puisqu'il n'y a pas eu d'élection générale depuis 2006. Néanmoins, il y a un nom qui revient assez souvent, c'est celui de Marwan Barghouti pour succéder à Mahmoud Abbas. Mais il se trouve qu'il est en prison. Il a réussi à fédérer un mouvement de grève de la faim des prisonniers assez important au printemps. Mais du point de vue d'Israël, il est considéré comme un terroriste. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est en prison, pour avoir organisé des nombreux attentats pendant la deuxième intifada. Il y a aussi le nom de Mohamed Darlan qui est derrière les pas récents que vient de faire le Hamas vers le Fatah. Mais du point de vue israélien, il n'en est pas moins un terroriste. Après, la partie israélienne serait peut-être... faudrait voir si elle serait prête à accepter des discussions.
Alors, j'ai plein d'idées et plein de questions à vous poser à propos notamment de l'annexion de la Cisjordanie. Est-ce que ça veut dire que la Cisjordanie est aujourd'hui perdue pour les Palestiniens ? C'est la question que je vous pose. Et je reviens à ce que j'évoquais précédemment. La paix qui n'a jamais été testée, la société israélienne est-elle prête ou saurait-elle comment fonctionner en situation de paix ? Alors, je ne sais pas qui veut répondre.
Sur la question de la Cisjordanie, il y a deux manières de voir la situation qui ne serait plus deux États mais un État. Il y a une manière démocratique de le voir. C'est-à-dire, on peut tout à fait imaginer un seul État où juifs et arabes aient les mêmes droits, y compris les mêmes droits de vote, le même droit d'être élu. C'est une situation qui, de mon point de vue, serait une situation idéale au sens de l'idéal. Mais il y a aussi l'apartheid. C'est-à-dire le fait que les deux populations sont côte à côte, mais l'une ayant des droits politiques et l'autre aucun. Donc on voit bien que là, la question des deux États ou d'un État se pose aujourd'hui avec beaucoup de force, mais d'une manière inquiétante. Enfin, je veux dire, ce que propose Naftali Bennett, qui est à l'initiative de cette loi d'annexion, qui est le chef du parti Foyer Juif, de l'ancien parti national religieux, qui a été un parti majeur dans l'histoire de la colonisation. Bennett, évidemment, a une vision extrêmement noire du point de vue palestinien. Je veux dire, Sami a raison. Il n'y a pas eu de bascule politique dans les dernières années. Mais il y a eu une bascule après 2001. C'est-à-dire depuis 2001, la droite est hégémonique et plus personne ne conteste son leadership. Et sur l'opinion, je suis d'accord avec Sami, c'est assez compliqué à apprécier. C'est-à-dire si on demande aux gens « Est-ce que vous êtes pour les deux États ?» 53% dans le dernier sondage disent oui. C'est un sondage relativement sérieux. C'est un institut d'études sur la paix qui se trouve à l'université de Tel Aviv et qui fait ça depuis des dizaines d'années. Mais en même temps, si on pousse dans le contenu de l'accord de paix des deux États, on voit les réticences majeures de l'opinion israélienne. Mais surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est le durcissement de l'opinion israélienne vis-à-vis des Palestiniens, y compris des Palestiniens d'Israël. Et je veux dire, parce que c'est quand même quelque chose qui, moi, m'inquiète beaucoup, que pour la première fois dans l'histoire des sondages en Israël, une majorité relative, mais une majorité quand même, 48%, se prononce pour l'expulsion des Palestiniens. Alors, je partage l'idée d'Alain que sans relais politique, il n'y a pas d'espoir. Parce que tant qu'il n'y aura pas une force politique importante, responsable, représentative, pour porter un projet de paix, quel qu'il soit d'ailleurs, toutes les associations du monde ne pourront pas régler les problèmes à la place des dirigeants. Donc là, on a vraiment des enjeux. Et pour l'instant, le brave entrepreneur dont parlait Alain, nouveau dirigeant du Parti travailliste, Gabay, on n'a pas l'impression qu'il en fasse plus que ses prédécesseurs, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est-à-dire le Parti travailliste a disparu de la vie politique israélienne. Il a quand même dominé le Yishuv et ensuite Israël de 1930 à 1977, avec une reprise en 92 sous Rabin. Enfin, quand même, on est dans une espèce de désert de la gauche. Quoi.
Voilà. Et donc, absence de grands leaders politiques de part et d'autre. Alain Diakov.
Bien sûr, il y a une absence de leader, mais je voudrais revenir sur un point qui a été évoqué d'une diverse façon. Si le récit dominant depuis, en effet, maintenant 15 ans, c'est celui de la droite qui, grosso modo, repose sur l'idée qu'il n'y a pas de partenaire du côté palestinien, que entre autres, il y a aussi des dangers qui persistent, et là, évidemment, l'Iran est souvent mis en avant comme danger essentiel pour l'existence d'Israël. Si ce récit a pu devenir aussi dominant, c'est que précisément il n'y a plus de récit alternatif. C'est ça le fond du problème. C'est-à-dire que ils occupent cet espace parce que personne d'autre n'offre un récit alternatif et donc un motif suffisant pour instiller une confiance politique minimale, pour essayer autre chose. Et là, on bute à nouveau sur cette question fondamentalement politique. Parce que, malgré tout, l'atrophie du Parti travailliste, c'est vrai qu'elle ne s'est pas faite en profitant uniquement la droite, mais elle s'est faite au profit de l'émergence d'une force centriste qui, il faut bien le reconnaître, est extrêmement molle. Et on le voit bien avec les succès souvent très importants des forces centristes. On peut penser au parti Kadima que Sharon avait créé, et qui, au bout de la deuxième législature, la troisième législature, n'existait plus. Donc c'est ça le fond du problème. On voit bien que c'est pas des vrais partis, ils ne portent pas de programme, ils répondent à une attente ponctuelle, et après ils disparaissent dans les oubliettes. Et c'est ça qui explique la situation actuelle et l'impasse qui, à mon avis, va perdurer à l'évidence, et elle va perdurer aussi, et ça je pense que c'est un fait sociologique majeur, qui sont liés aux transformations de la société israélienne, c'est-à-dire le fait que, démographiquement, dans la société juive israélienne, c'est-à-dire parmi les 80% de citoyens juifs de l'État d'Israël résidents, eh bien vous avez maintenant deux blocs très importants qui sont différents mais qui vont tous dans le même sens, c'est-à-dire d'un soutien au nationalisme. C'est d'un côté les juifs venant des pays d'islam, qui sont souvent traditionnalistes d'un point de vue religieux, et qui sont foncièrement anti-gauche.
Et ceux venant de Russie.
Et de l'autre côté, ceux qui sont pourtant laïcs, ce qui montre bien que c'est pas seulement la variable religieuse qui compte, c'est plus compliqué que ça. Mais en même temps, ils sont nationalistes, ils sont anti-arabes, et donc ils pensent qu'il faut un leader fort, et que Netanyahou, et même d'autres, beaucoup plus à droite, comme Avigdor Lieberman, le ministre de Défense, représentent précisément l'homme fort dont Israël a besoin. Donc dans ce contexte-là, je crois qu'il n'y a pas d'espace de manœuvre véritablement qui permette une sortie, par le haut.
Alors, Sami Cohen, vous vouliez juste rajouter quelque chose et ensuite on va conclure.
Oui, il n'y a pas de récit alternatif. Il y en a quand même un, c'est celui du camp de la paix. Mais le camp de la paix n'est plus audible sur ce récit-là parce que, justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la droite dit, mais ce que vous avez proposé, on l'a essayé plusieurs reprises. Rabin l'a essayé en 80. Il a signé les accords d'Oslo. En 94, déjà, on avait des attentats suicides à Tel Aviv. Donc, ça ne marche pas. Et donc, l'opinion publique est très sensible à la sécurité. Et ce qu'elle écoute, c'est ceux qui essaient de la rassurer. Ceux qui disent, mais attention à l'autre. L'autre est menaçant. Et donc, l'opinion a basculé dans ce sens-là du choix des dirigeants qui vont lui apporter la sécurité. La paix est devenue tout à fait secondaire pour elle. Elle est secondaire aussi par rapport aux questions économiques et sociales. Si on voit les dernières élections, celles de 2015, la majorité des Israéliens se disaient sensibles à la question davantage des questions économiques et sociales que sur le problème du processus de paix qui est passé au deuxième plan. Enfin, un dernier point, sur le fait que s'il n'y a pas de dirigeants politiques qui émergent disons, centre-gauche, gauche ou centriste, sur les questions du processus de paix, c'est tout simplement parce que, pour revenir au pouvoir, ils ont besoin des voix de la droite. Shelly Yachimovitch, qui était une des secrétaires générales du Parti travailliste, disait « mais nous ne sommes pas un parti de gauche ». Elle allait faire des ouvertures aux colons. Ils ont besoin de ce réservoir pour revenir au pouvoir. Mmh. Et donc, offrir et proposer un projet de paix est considéré par ces partis-là comme contre-productif. C'est pas ça qui les ramènera au pouvoir.
Alors, pour conclure, pardonnez-moi, mais le conflit israélo-palestinien, ce qu'on peut constater, c'est qu'il enregistre un déclin d'intérêt de par le monde et que, parallèlement, ce qu'on voit, c'est Israël avec une situation régionale qui lui est particulièrement favorable aujourd'hui. La sécurité s'est améliorée, l'économie est plutôt florissante et les États arabes courtisent Israël pour la qualité de son renseignement sur les terroristes et une alliance contre l'Iran. Globalement, tout cela vous fait conclure sur quoi, Dominique Vidal ?
Non, ce qui est évident, c'est qu'il y a une espèce de théâtre d'ombre. Parce que d'un côté, les Palestiniens ont remporté des victoires diplomatiques extrêmement importantes dans les 5 dernières années. Ils ont réussi à entrer à l'ONU,
reconnaissance
au sein des organismes comme la Cour pénale internationale, Interpol, etc. Donc tout ça, ça compte et ça ne peut pas être mis sous le boisseau. Mais d'un autre côté, vous l'avez dit, c'est tout à fait juste, Israël a regagné du terrain sur le plan diplomatique, et pas seulement en direction des pays arabes modérés de la région, mais aussi en direction des émergents. Je pense à l'Inde, qui est maintenant un allié étroit d'Israël. Je pense à une partie des pays d'Afrique, même si le dernier sommet n'a pas réussi à se mettre en place. En Amérique latine, Benjamin Netanyahu est le premier dirigeant israélien à se rendre en Amérique latine. Donc on a une situation où effectivement la droite et l'extrême droite peuvent faire un bilan plutôt positif de leur gouvernance, de leur capacité à maintenir leur emprise sur le pays et à éviter un isolement trop important d'Israël. Cela étant dit, il y a des gens qui vont payer tout ça. Alors ce sont les Palestiniens, évidemment, mais ce sont aussi les Israéliens, parce que vous disiez une économie florissante, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire c'est une économie néolibérale, donc qui a des bons résultats en termes de chômage.
Investissement étranger assez important,
voilà,
malgré les politiques de boycott, on n'en a pas parlé.
Mais d'un autre côté, vous avez une situation d'inégalité
très forte
qui est parmi les plus fortes de tout le monde occidental. Les chiffres de l'OCDE, de ce point de vue, sont très importants. Donc je suis très inquiet, parce que cette situation-là, elle risque non seulement de produire des conflits, et des conflits avec des morts, mais aussi une détérioration de la vie quotidienne des populations des deux côtés.
Alors, extrêmement rapidement, Marianne Meunier.
Tout à l'heure, Sami Cohen disait que la paix était presque devenue secondaire pour les Israéliens. Je pense que c'est la même chose pour les Palestiniens, c'est-à-dire que il y a des préoccupations qui sont beaucoup plus prioritaires et qui relèvent de la vie quotidienne, de l'emploi, de l'électricité à Gaza quand on habite à Gaza. D'ailleurs, on ne parle pas de camp de la paix côté palestinien. Et je voulais aussi ajouter que effectivement, l'intérêt pour le conflit israélo-palestinien a diminué dans la diplomatie, mais aussi dans les opinions occidentales, où en fait, aujourd'hui, on a l'impression que l'actualité au Moyen-Orient se résume à la lutte contre Daesh. Et effectivement, c'est extrêmement dommageable pour le conflit israélo-palestinien.
Alain Diekhoff.
Bah, écoutez, c'est difficile évidemment de résumer une discussion aussi riche. Mais je dirais simplement que pour moi, le motif d'inquiétude le plus important, c'est des deux côtés, du côté palestinien comme du côté israélien, la montée du nationalisme religieux, c'est-à-dire la montée d'acteurs religieux qui ont un discours politique, mais où finalement on est dans des logiques d'absolu des deux côtés qui rendent absolument tout compromis impossible.
Merci Alain Diekhoff. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur du série Sciences Po, spécialiste du Moyen-Orient et notamment du conflit israélo-arabe, auteur de plusieurs ouvrages, le dernier, Le conflit israélo-palestinien, chez Armand Collin. Merci aussi à Marianne Meunier, chef de rubrique Proche-Orient au service Monde de La Croix. Dominique Vidal, historien et journaliste, directeur avec Bertrand Badi de la publication annuelle L'État du Monde aux éditions La Découverte. Et Sami Cohen, directeur de recherche émérite au série Sciences Po, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Israël et ses colombes, enquête sur le camp de la paix chez Gallimard. Géopolitique était réalisé dans le cadre des Géopolitiques de Nantes, signé Marie-France Chatin et Marc Fichet à Nantes et Nathalie Laporte à Paris. À